Moi, ça serait B et F.
B et F. Alors la F, c'est réglé, hein, j'ai l'impression. Ça se joue entre B et D. Enfin après,
ah,
voilà,
oui.
Sarah,
alors,
Sarah,
B. B. Parce que je voulais dire B et F aussi.
Ouais. B et F. On supprime donc les versions B et F.
Ah, B, j'ai peur.
B, c'est Christian Tetzlaff.
Ah.
C'est un concert que vous avez mentionné, oui. Je pense, Emmanuel, tout à l'heure.
Oui, c'est le concert
ben, je ne sais pas, c'est le Deutsche Symphony Orchestra, dirigé par Robin Ticchetti.
Alors, je ne suis pas sûre que c'était le Deutsche. J'avais l'impression plutôt que c'est un orchestre anglais. J'aurais dit le Philharmonie, mais, bon. Mais je dis peut-être des bêtises. D'accord.
C'est pour le label Ondine.
Mais vous voyez quand même, ça met concert. Le doigt sur quelque chose. Écoutez en vrai. Et écoutez un
disque.
Ah, ben
bien sûr. Faut qu'on fasse la tribune des critiques de concert.
C'est pour ça qu'on va en concert.
Ça, c'est voilà. Mais oui, c'est pour ça qu'il faut, oui. Que
il faut toujours
qu'on continue
aller,
les concerts.
Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et parfois, il y a des enregistrements sur le vif également. Ça
oui,
arrive.
Mais encore, voilà. On l'écoute.
Alors ça, c'était la B, okay. Enregistrée donc, pour le label Ondine en 2018. Et la version F, bah, pardonnez-moi Thomas Deschamps, c'est celle que vous avez citée en début de l'émission. C'est Augustin Haderlich.
Et, ben.
Et le Royal Liverpool Philharmonic, dirigé par Anu Lintu. En 2013.
Voilà, c'est bien amusant.
C'est
toujours
amusant.
Ça, c'est toujours la tribune, c'est dans la grande tradition.
C'est ainsi. Alors, elle a peut-être payé, en effet, sa juxtaposition avec la version E, qui vous avait beaucoup plu tous les trois, c'est ainsi. C'est le label Avier, et il y a un couplage qui est très intéressant, parce qu'il y a le concerto de Thomas Hadès sur le même disque, qui est passionnant. Voilà. On continue avec quatre versions.
France Musique, la tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Dans la tribune des critiques de disques cet après-midi, en compagnie de Sarah Nemtanou, Emmanuel Giuliani, Thomas Deschamps, nous écoutons, comparons six versions du concerto pour violon de Jean Sibelius, version des 10-12 dernières années, je l'ai rappelé tout à l'heure. On a éliminé deux versions. Vous pouvez, comme chaque dimanche, nous écrire sur le site de France Musique en cliquant ou pas, vous pouvez voter, écrire ou pas voter, mais si vous nous écrivez et que votre courrier est sélectionné, eh bien vous aurez la possibilité de gagner le disque France Musique de la semaine, qui est un disque Prokofiev, la première symphonie et les deux suites de Roméo et Juliette par l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, dirigé par Aziz Chorakhimov. C'est un disque paru chez Warner. Donc on a supprimé deux versions, je l'ai dit, les versions B, Tetzlaff et F, Augustin Haderlich.
C'est la mort dans l'âme, c'est mon violoniste préféré du moment.
Oui.
Augustin.
Mais vous n'êtes
pas le seul, Thomas.
Merci.
Non, je
Sarah.
Vous soutiens à fond.
Puis le concert Tetzlaff, moi, reste un moment machin. Mais comme quoi, oui, hein, voilà. Mais bon,
ah,
je
oui,
vais dire
vrai,
que le concert
tous les trois
disque,
dans le...
que le disque et le concert n'ont rien à voir. Moi, j'ai une petite porte de sortie.
le deuxième mouvement, c'est pas une plage de repos pour le violoniste, mais après cette bataille. Du premier mouvement, on se repose un petit peu, non, Sarah Nemtanou, dans le deuxième mouvement. Quelle est la caractéristique pour vous de ce mouvement ?
J'ai découvert ce mouvement avec Christian Ferras.
Pour
moi, je sais que, voilà, aujourd'hui, on fait les 10 dernières années.
Mais... Il était dans la sélection
oui,
en 2015,
j'imagine,
hein,
mais
de Karajan, notamment.
C'est la version.
Ouais.
Avec, je trouve que Christian Ferras plus Sibelius, c'est carrément, ça rentre voilà, dans le top 3 de tous les concertos pour violon confondus et interprètes. C'est un combo. Dites Thomas.
J'ai juste à ajouter que pour Ferras, qu'il y a un document filmé dans la collection Classica Archive où on le voit jouer ce mouvement lent et il est fini, il est complètement en larmes.
Il pleure. Ouais. Non, mais c'est un mouvement, oui, on peut pas vraiment se reposer, jamais, mais c'est vrai que c'est un mouvement très très agréable à jouer parce qu'il y a beaucoup de contre-champs, on fait des gammes, des arpèges, mais on accompagne l'orchestre au milieu du mouvement qui a le thème et c'est jouissif, quoi. Vraiment, c'est magnifique.
Bon, on va écouter ce mouvement Adagio di Molto dans quatre versions en recommençant avec la version A.
Thank you.
On s'arrête ici pour le deuxième mouvement. Sarah Nemtanou, vous aviez tout à l'heure été très sévère, quand il faut le dire, sur cette version. Ah, vous n'avez pas aimé ce manque de naturel, je ne vous rappelle pas tout.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Allez-y.
Non, mais peut-être que vous allez nous donner la suite, là, maintenant, avec le nom de l'artiste.
Ah oui, mais c'est dingue.
Vous pensez toujours à la même personne?
Oui, oui. J'ai l'impression de les voir en hologramme devant moi, tellement que c'est évident. Mais peut-être que je me trompe. Mais c'est Janine Jensen qui joue. C'est évident. Avec le petit Klaus, qui doit avoir 24 ans hein, sur cet enregistrement. Mais c'est beau. Hein. On ne peut pas reprocher que ça ne va pas. Mais si vous voulez, je trouve le début, en parlant de l'orchestre, je trouve qu'on peut presque subdiviser le rythme. Ta-da-di-da-di-da-di. Ça manque de liberté. Ce geste musical qui commence à la clarinette, qui est suivi par les deux hautbois, une réponse, yam, ça m'a rien raconté, c'était mathématique. Mais ensuite, voilà, il y a une cohésion, c'est bien fait, super niveau, on sent un orchestre habitué à ce répertoire, mais dans une sorte de, oui, de ça va, juste ça va.
Oui, ça va, c'est plus que ça va pour vous Thomas Deschamps, n'est-ce pas?
Bah, je suis un peu déçu par rapport au premier extrait. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est la lenteur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la discographie de l'œuvre, plus on avance dans le temps, plus les gens, plus les musiciens jouent ça lentement. Alors que la version iFeds, la première, en 34 ou 35, je ne sais plus, elle fait, je crois, 29 minutes, tout est assez allant.
C'est le premier enregistré, en 35.
Oui, en 35, c'est le premier, voilà. Il avait fait une tentative en 34 qui a avorté avec Stokowski. Et tout est assez allant, et ce n'est pas qu'une question de durée de phase de 78 tours. Même si on prend des versions enregistrées sur bande de Ginette Neveu, par exemple, c'est assez rapide aussi. Et là, maintenant, on joue ça de plus en plus lentement, en particulier ce mouvement lent. Et là, je suis très touché, moi, par cette introduction des clarinettes et du hautbois et de la flûte, ces appels dans la nature. C'est encore une fois une introduction de Sibelius très réussie, même si après, c'est le mouvement qui m'intéresse le moins des trois. Et là, ça tombe un peu à plat. Et quant au violon, ce vibrato qui est obligé donc d'être plus lent, je trouve que ça la ramène un peu. C'est un peu, ça se regarde un peu le nombril pour moi. C'est beau, hein, c'est bien réalisé, mais je passe à côté de ce que j'attends de ce mouvement.
Oui. Même chute aussi, Emmanuel, ou vous continuez de...
Alors, j'aime toujours beaucoup certaines choses, mais aussi petit point de déception par rapport au premier mouvement. Moi, j'aime beaucoup le son du violon, que je trouve très beau. Alors, peut-être un peu hédoniste, en effet, un peu. Ça me donne l'impression d'un très beau solo d'un danseur ou d'une danseuse, avec le corps de ballet qui serait l'orchestre, qui fait un peu ce qu'on avait tellement reproché à Benjamin Millepied quand il avait dit souvent le ballet est un peu papier peint. Voilà. Je trouve que c'est un peu un magnifique être vivant devant quelque chose d'un petit peu figé et un peu ennuyeux. Mais ce que j'adore, je ne sais pas, Sarah, si c'est une grande jouissance pour un ou une violoniste de jouer dans le médium. Pour l'auditeur, c'est comme quand on entend une soprano qui a un très beau médium. On sait que l'aigu est magnifique et rayonnant, mais quand en plus il y a un beau médium riche, il y a pour l'auditeur...
Il y a un très beau médium, là.
Et là, il y a un très très beau médium.
C'est même un grave, sur la corde de sol.
Et donc, quand c'est réussi et comme ça à la fois clair mais profond néanmoins... Pour moi, c'est déjà une très grande jouissance purement sonore. Voilà, et donc ça, je trouve que vraiment, c'est très réussi et que ça va avec ce lyrisme un peu trop expansif, peut-être. Mais là, ce qui me déçoit, c'est le fond orchestral qui ne devrait pas être un fond.
Version C. Thank you. version C. Vous êtes perdu dans vos pensées, Thomas Deschamps.
Non.
Ouais. Happé par ce que vous entendez.
Oui. Oui. Ouais. C'est magnifiquement articulé de la part de l'orchestre. Les appels là, du soir, je ne sais pas où ils sont, mais ils sont magnifiquement réalisés. Et après, la soliste, il y a une variété de vibrato, mais qui n'est pas...
Vous avez dit la soliste.
Oui, ouais. Je pense.
Ah, vous avez reconnu
à force, oui, je pense.
D'accord.
Il y a une variété d'utilisation du vibrato qui conduit à des résultats poétiques, émouvants. Mouvants, c'est comme un ciel du soir qui passe, si on cherche des images. C'est jamais tout le temps pareil. De la part de l'orchestre, les pizzicati...
Les pizzes sont incroyables.
Les pizzes sont incroyables. Présence, et après, cette petite séquence de trois notes là, identiques, pom, 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 qu'on entend tout doucement. Et puis pareil, le morendo avant... cet effacement progressif de l'orchestre avant qu'on arrive à la dernière séquence qui commençait quand on a arrêté, je trouve ça magique.
Très émouvant. Emmanuel, vous partagez ?
Oui, absolument. Et puis, un choix de tempo qui a l'air de ne pas être un choix, mais une évidence, c'est celui de la respiration et de la... Voilà, et de la vie qui s'écoule, enfin, un aspect organique absolument extraordinaire. C'est vrai que le début, ça se soulève à chaque fois. Les dernières notes ne vont jamais ne nous ramènent jamais sur Terre. Et on a l'impression que la loi de la pesanteur est assez défiée, là. Et puis, le violon qui s'ouvre un peu comme une fleur, mais sans se la jouer comme magnifiquement la précédente, mais là, ça semble beaucoup plus naturel. C'est vrai que, comme vous, j'ai été sensible à la variété de sonorités d'orchestre, à la manière dont la lumière et l'air circulent. C'est vrai que ces pides sont exactement ce qu'il faut. Ce qui fait que toute cette évidence et cette simplicité devient terriblement émouvante sans jamais nous solliciter trop.
Oui.
Non, c'est un miracle d'équilibre.
Oui. J'ai l'impression que vous avez des... Non, partagez pas l'enthousiasme de vos camarades, Sarah.
Mais oui, mais... Écoutez, il faut pourquoi... que cette émission... Oui. Voilà.
Mais c'est ça. Les pizzes, vous n'êtes pas d'accord?
Ah si.
Les pizzes, oui.
À fond.
D'accord.
Orchestre 100 sur 100.
Oui.
Ah, moi, j'adore le chef, j'adore. Et j'ai relu mes notes dans le premier mouvement. C'est dans cette version-là que dans le premier tutti du premier mouvement... J'ai entouré, il y avait une sorte d'accélération. C'est vraiment, je trouve que le ou la soliste n'est pas au niveau intellectuel et musical du chef. Je trouve que la soliste ou le soliste est très élégant. C'est vrai, c'est très sobre, c'est bien, mais il y a quelque chose de bloqué émotionnellement pour moi. Ça peut être beau et sobre, mais ça vient pas. Vous n'avez pas ni Thomas ni Emmanuel parlé, ça vient me toucher au cœur. Non, vous dites c'est très beau, c'est très... Avec une certaine distance, quand même.
Ah oui ?
Oui ? Je trouve qu'il y a une distance dans l'énergie globale, quoi. Mais de ce violoniste... Bah après, voilà,
C'est pas Tchaïkovski.
Non, c'est pas Tchaïkovski, mais je parle de...
C'est pas un concerto romantique où l'auteur nous entraîne avec lui.
Peu importe l'auteur, je parle juste de faire deux notes et que ça vienne toucher au cœur. Il y a quelque chose dans l'expression générale qui me semble endormi.
Vous avez dit englué tout à l'heure, je crois, pour cette version.
Bon,
oui,
là,
non, mais c'est l'idée que vous ressentez.
Ça, c'est ça. Le violon reste calme et sobre, et c'est vrai que ça crée une belle dynamique. Il y a quelque chose de vivant en dessous avec l'orchestre, et le violon, voilà, tel un condor qui surplombe tout ça, si vous voulez, mais...
Un condor de Finlande. Les plus beaux.
Peut-être.
Très bien, toujours ces réserves que vous avez sur cette version C.
Ouais.
Très bien, bah écoutez, on passe à la D tout à l'heure qui avait suscité des réactions un peu... Emmanuel, vous n'aimiez pas trop la version D. Hein.
Je ne demande
qu'à être petite maladresse, oui, c'est ça, on avait pointé les qualités et les défauts de cette version D que voici toujours dans ce même mouvement lent du concerto de Sibelius.
Thank you.
la version D. Il est touchant quand même ce violon, non Emmanuel?
Je ne sais pas, je dormais. j'exagère un peu. Je trouve que c'est du note à note. C'est tellement lent, tellement disséqué. Tout.
Ouais, tout. Ah oui.
Tellement note à note. Oh non, je trouve que c'est mortellement ennuyeux. Dès le départ, en plus, ce que Thomas appelle joliment les appels de la forêt, les silences, mais ils sont tout plats. C'est, on sent déjà que c'est mal parti. Alors, on peut avoir un peu d'espoir quand va arriver le violon, mais comme dans le premier extrait, c'est, il me semble, au point de vue intention sonore, intention et réalisation sonore, c'est tout le temps pareil. Tout le temps. C'est très beau, mais pas particulièrement riche, vocal, profond, vénéneux, ou au contraire lumineux comme son. Et comme on a l'impression que tout est détaillé, disséqué, décrypté en 3, 4, 5 D, au bout d'un moment, je trouve que l'auditeur est complètement largué. Ouais.
Là, il y a une distance.
Même pas une distance, ouais. Pour moi, c'est un gouffre.
Ouais. Là, oui, et vous n'avez pas de distance ici,
tout
Sarah?
Tout le contraire.
Tout le contraire, c'est vrai. Ah oui.
Je sais pas, j'aime bien parce qu'il y a... Oui, je comprends tout ce que vous dites, Emmanuel. Franchement, je le comprends. Mais mon oreille déformée, hein, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas, j'écoute le violon, tout ça, j'entends l'orchestre aussi, évidemment. Je trouve ça très riche à l'intérieur. Je trouve que cette personne parle quand elle joue. Il y a des subtilités d'archer, de jeu, de vibrato, oui, mais c'est trop subtil. On dirait que cette personne est peut-être un peu timide et tant pis, c'est son monde, elle a rien à prouver. Elle fait son truc et c'est pas, faut pas que ça se voit trop, mais c'est très riche à l'intérieur.
C'est tellement à l'intérieur, vous voyez, que
c'est très... Mais il y a une sorte d'alignement et je trouve ça très humain. C'est bizarre, cette version, elle m'interroge encore, je vois pas du tout...
C'est ce que vous
tout.
Aviez déjà ressenti
oui,
tout à l'heure.
Oui, je sais, hein. Ouais. Mais je sais pas du tout qui ça peut être, mais en tout cas, ça m'intéresse beaucoup.
Mm-hmm. Thomas Deschamps, vous êtes intéressé aussi ou pas?
Pas trop.
Ouais.
D'abord, j'ai été un peu déçu par l'orchestre, encore une fois. Les clarinettes n'arrivent pas à faire un diminuendo. Donc ça, c'est un peu gênant. C'est quand même très à découvert, ce début. Donc ça se remarque tout de suite. L'accompagnement est plan possible. En tout cas, il y a un chef qui est extrêmement passif par rapport au violon, dont je sens une vie intérieure. Mais comme ce n'est pas raccordé au reste, je n'arrive pas à m'intéresser. C'est comme un soliloque, un petit peu.
Ouais.
Attendez, j'ai envie de savoir quelque chose. Est-ce que c'est une version live?
Je ne crois pas.
Non?
Je ne crois pas. Donc, un violon seul, un soliloque pour vous. Ouais. Un chant intérieur, mais qui ne trouve pas de partenaire à l'orchestre ni à la direction. Bon, avis contrasté sur cette version D. Tout à l'heure, les avis étaient moins contrastés sur la E. Hein, la voici, cette version E dans le deuxième mouvement. Thank you. La version E. Vous parlez d'un violon qui parlait tout à l'heure à propos de l'AD. Là, il nous parle aussi beaucoup, non, Sarah?
J'ai une petite question avant, ouais. Jérémy.
Oui.
Anne-Sophie est toujours en course, là.
Ah ben, tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, hein, on a dit...
Oui.
On a...
oui, vous avez dit, il y a Anne-Sophie, c'est la version qui avait gagné il y a 9 ans.
Tetzlaff, c'est ça. Et Tetzlaff, c'était la B, oui. et Augustina de Lisch en F. Donc, logiquement...
Moi, je trouve ça incroyable qu'on ne reconnaisse pas tout de suite Anne-Sophie. Moi, je suis... j'hallucine de ne pas me dire, ah, c'est évident, c'est Anne-Sophie. Moteur.
Ben, elle est là ou pas? C'est celle-là?
Je ne sais pas, peut-être, ce serait la plus probable. Ou alors, vous m'avez complètement arnaqué avec Janine Jensen et Klaus Mackelade.
Ah, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit.
Non, vous n'avez rien dit, mais vous ne m'avez pas dit, non, ce n'est pas du tout ça.
Non.
mais j'aime toujours autant. Ouais. Je trouve ça toujours aussi parlant, toujours aussi libre et respectueux à la fois du texte, des libertés élégantes, quoi. Et un son merveilleux. Mmh. C'est tout, franchement, j'aime beaucoup. Il y a des glissades qui me font plaisir aussi. Voilà, je trouve ça très beau.
La répétition des dernières phrases, là, cette façon de le... Et puis la façon de le refaire comme un chuchotement.
Oui, oui, absolument.
C'est très éloquent.
Ah oui, ouais. Oui, oui.
Sur un tempo un peu plus enlevé.
Un peu plus enlevé, oui. Un discours qui est plus serré.
Ouais.
Et un orchestre qui est, bon, évidemment pas aussi interventionniste que dans la version C, qui laisse toute sa place au soliste. Mais là, c'est pas un soliloque, c'est un discours sur la solitude que j'entends. Et c'est très touchant. Et le dernier appel, bon, bah, s'il y a personne, je vais le redire encore une fois, mais.
Je vais essayer de le redire.
On peut essayer, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et là, c'est encore, comme je le disais pour le premier extrait, c'est quelqu'un qui comprend la nature de cette musique, à la différence de la version A, où on a un mouvement lent de concerto romantique, un petit peu lambda.
Oui. Ouais. Vous dites que le chef est moins interventionniste que dans la C, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Oui, je trouve. Et l'orchestre n'est pas, à mon sens, exactement du même niveau.
Ouais. Vous seriez de la même avis de Sarah? C'est peut-être Mouter ici,
non,
ou pas?
Non, pas pour moi. Ce serait plutôt C. Mais
d'accord.
Bon,
ben, Et pour vous, alors, Emmanuel?
Moi, j'aime toujours beaucoup, beaucoup, y compris le son de l'orchestre, un peu vert, un peu moins séduisant, mais je trouve que ça va très bien avec le premier extrait ou ce début, on était dans l'air givré. Là, peut-être la belle saison approche.
L'air ERE.
Ah oui, oui. Oui, peut-être. L'air givré, oui, oui, voilà. Oui. Je trouve que c'était très beau. Il y a énormément de grande finesse dans la palette. Puis ce que j'adore dans ce violon, c'est qu'on a l'impression que c'est complètement improvisé. Oui, quelqu'un qui a besoin d'être consolé, ouais, ouais. Et qui lui vient cette mélodie. Et puis voilà. Et puis elle ou il la joue, la chante. C'est très, très vocal. Y compris parfois, pas un petit chat, mais quelque chose qui passe dans les... Et, pris isolément, on se dirait c'est moins beau, mais ça va tellement bien dans l'ensemble du discours. Et vraiment, moi, un appel à la consolation. Et j'aime bien la discrétion de l'orchestre, parce que est-ce qu'on ose aller la consoler, l'entourer, ses petits pids, pour montrer qu'il y a quand même une présence. Puis après, on vient un peu plus. Je trouve que c'est vraiment magnifique.
Bien.
Et tellement... tellement beau dans la continuité de ce qu'on a entendu du premier mouvement.
Ouais.
Et on imagine que le dernier... parce qu'on va la garder.
Bon, on va la garder, cette version E, j'imagine. On en garde 3, donc on en supprime une. Alors laquelle? Thomas, vous avez fait un choix?
Oui, la D. Hein.
La D pour vous?
Pareil, oui.
La D.
Oui, dès le début.
La D.
Bon, je savais qu'elle allait perdre.
La D, hein, oui, vous avez une tendresse pour la D.
Oui.
Sarah Nemtani.
Même si je sais qu'elle n'allait pas gagner.
Elle est enregistrée en 2021. C'est John Dalene, violoniste suédois. Jeune violoniste suédois, l'Orchestre Philharmonique Royal de Stockholm, dirigé par John Storgard. Je crois vérifier qu'il y a peut-être le concerto de Nielsen sur ce disque. Oui, de Nielsen. On l'avait entendu dans une tribune sur le concerto de Tchaïkovski, qu'il a enregistré également pour le label BIS. Voilà, c'était la version D qui nous quitte donc. Pour la finale, maintenant, entre 3 versions, les versions A, C et E.
France Musique, La tribune des critiques de disques, Jérémy Rousseau.
Écrivez-nous encore une fois et votez sur le site de France Musique, sur radiofrance.fr, pour gagner le disque Prokofiev de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, paru chez Warner. On va entendre trois fois le final, pas le début. Le début, on l'avait entendu dans le générique tout à l'heure, on a entendu le générique dans la version A, je peux vous le dire maintenant. Le générique, début du troisième mouvement, la polka pour ours polaire. C'était la version A qu'on a entendue en générique tout à l'heure.
Ouais, qui ne plaisait ça. Déjà pas à Sarah.
Qui plaisait déjà pas beaucoup à Sarah. Ouais. Alors, pour celles et ceux qui ont la partition, c'est à partir du chiffre 6. C'est un beau milieu de mouvement, mais avant le feu d'artifice final, cet affrontement assez étonnant entre l'orchestre et le soliste. Trois fois, donc, le concerto, le final, Allegro ma non tanto du concerto pour violon de Sibelius, dans les versions A, C et E, en commençant par la A. La version C. et une dernière fois dans la version E. Trois fois le final du concerto pour violon de Sibelius à la tribune cet après-midi, dans trois versions, donc les versions A, C et E. À l'instant, verdict Thomas Deschamps.
Eh bien, la version A, c'est celle qui a un peu de difficulté à m'intéresser tout au long. C'est bien, on a un extrait assez important.
Ouais.
Ça démarre, là où on l'a pris, ça démarre tout de suite très fort, c'est très pétillant, un vrai feu d'artifice. Et rapidement, je sens que les effets se répètent et l'orchestre est extrêmement conventionnel. Quand ça devient langoureux, ça devient vraiment langoureux. Alors que les deux autres versions, ce qui peut les réunir au niveau orchestral, c'est une gestion des nuances assez incroyable, avec notamment des cuivres qui vrombissent dans un cas comme dans l'autre, surtout dans la E. Ça, c'est très, très réjouissant. Et puis, on ne sent pas de lassitude, on sent une réelle progression, on a une conduite du discours qui n'existe à mon sens pas dans la A. Donc après, c'est assez difficile pour moi de départager la
C. Mais au niveau du soliste, part dans ces feux d'artifice pour vous les plus spectaculaires, les plus brillants.
Le plus naturel pour moi, ça serait la E.
Ouais.
La C ressemblant peut-être plus à un traité de violon, ou je ne sais
de
pas.
Virtuosité.
De virtuosité. Ouais. Et c'est une dimension qui existe vraiment dans ce concerto. Hein. Sibelius l'a voulu ainsi aussi.
Ouais.
Donc ce n'est pas un contresens absolument.
Donc pas facile de départager pour l'instant. Bon, Emmanuel Giuliani, plus facile ou pas?
Oui, plus facile parce que je crois que dans l'ensemble, ça sera la E, parce que je trouve que c'est elle qui nous fait le plus voyager, qui est la plus originale. Alors c'est toujours compliqué parce que dans cette émission, l'aversion de référence, etc. Donc on peut se dire qu'elle est tellement particulière, elle a tellement de personnalité, mais moi je la trouve absolument irrésistible. Ce début, on a l'impression que c'est un gosse qui a ouvert la porte et ses parents n'étaient pas d'accord et qui va danser dans la neige, quoi. Une espèce de liberté, de joie, un côté...
On s'amuse beaucoup dans la
On s'amuse énormément. À un moment, l'orchestre a des sonorités de fête foraine. Je trouve ça vraiment étonnant. Ce qui fait que le côté très ancré, traditionnel, populaire, comme on le disait tout à l'heure, mais vraiment au très beau sens du terme, fait qu'elle est toute folle, cette version. Et elle tient. On se dit pas, bon, allez, c'est pour amuser la galerie. Absolument pas. C'est très profond aussi et très émouvant. Moi, je la trouve vraiment étonnante de bout en bout. La C, c'était très beau, parce que ça scintille au début, c'est splendide. Et puis, je ne sais pas du tout si c'est le cas, mais je trouve que dans l'orchestre, il y a cette espèce de petit côté motorique, comme fait quelqu'un comme Salonen, par exemple. On a l'impression qu'il a mis son moteur, et alors après, inexorablement, ça avance, quitte à vous couper un peu le souffle, mais on en redemande. Et ça, je trouve que l'orchestre est fabuleux là-dedans. En effet, c'est très bien fait, même si le début, moi, j'ai eu moins de jouissance violonilistique que pour le début, que pour les deux autres extraits, mais il n'y a pas le grain de folie. Donc c'est très bien fait, mais c'est trop... On peut dire maintenant, vous le savez parfaitement, allez maintenant, on interprète.
Ouais. Sarah Netanyahu, quels sont les effets techniques particulièrement sollicités dans ce mouvement par Sibelius?
C'est surtout ce rythme pointé, ta-ta-ta-ta, qui est assez difficile à exécuter, et y a, on l'a pas entendu là dans ce dernier extrait, mais il y a un passage très dansant qui revient, ta-ram, ta-ram, pa-pam, pa-ram, et il est dans le top 3 des passages les plus difficiles à jouer dans les concertos pour violon. Vraiment, ce final de Sibelius, c'est dans le top 3 vraiment techniquement. Il y a beaucoup de double cordes, il y a beaucoup de rythmique, et il y a beaucoup de notes, il faut que ça sonne, et il faut pas que ça grince, quoi. Ouais. Il faut donner à la fois du caractère, il y a pas beaucoup de moments pour respirer, quoi. Donc voilà, c'est très difficile techniquement, il faut que ça danse. Et ces trois versions, quand même, elles dansent. Le tempo n'est pas trop vite. Ces trois versions, je dis bravo, parce que c'est pas... La A est très fougueuse. De toute façon, c'est très très clair pour moi, je vais pas mentir aux auditeurs. Pour moi, c'est Janine Janssen, la première. C, c'est Mutter. Et E, je ne sais pas qui c'est, mais c'est super, et je suis d'accord avec vous, et je vous rejoins, c'est très vivant. Mais je trouve que la version A, effectivement... Elle est un peu trop ensorceleuse pour moi. Elle veut trop nous ensorceler dans son truc trop instinctif. Il y a trop d'effets de jeu qui se répètent. Je suis d'accord avec Thomas. Mais on sent vraiment un talent incroyable, une fougue exceptionnelle. Et on la reconnaît, cette violoniste. Ouais. Elle a le mérite qu'on la reconnaisse. Mmh. On ne reconnaît pas tout le monde. Donc ça, voilà, c'est la classe. Ensuite, la version C. Alors, si c'est Mutter et son mari de l'époque, c'est le mari et la femme. Donc, c'est pour ça qu'aussi, il y a peut-être cette habitude que je sentais dans les deux premiers mouvements. Je me disais, tiens, elle est comme à la maison, peut-être qu'elle s'ennuie. mais voilà.
Mais alors, alors ils ne s'entendent pas?
La E, non, moi j'adore la E, et je vous rejoins parfaitement, c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on n'a pas été très d'accord tout au long de l'émission, mais on est d'accord pour, je pense, sur celle-là, qui est plus fragile techniquement. Ah, le violoniste de la E, n'est pas aussi bon. Je pense, je veux dire...
Que la C.
Que la C et la, ouais. A.
Ah oui.
Ah oui, les deux. Il y a plus de fragilité, mais c'est attendez, c'est un grand niveau quand même.
Oui.
Il n'y a pas de problème.
Non.
C'est juste, c'est beaucoup plus... C'est beaucoup, enfin, c'est tellement haut à A et C, violonistiquement, qu'on sent que E est un tout petit peu en dessous. Ouais.
Donc vous partez avec la E pour
Ah oui, moi je prends la E pour aujourd'hui.
Pour aujourd'hui. Thomas, pour aujourd'hui ?
Je crois que je vais dire la E. La C me plaît énormément, à la fois au niveau violonistique, et puis
aussi.
L'orchestre, j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est la seule où on entend les contre-courants rythmiques à l'orchestre.
Ouais.
Ces trucs qui sont complètement à l'inverse du rythme.
On avait souligné
tout
au long de la C, ne serait-ce dans le deuxième mouvement,
tout à l'heure
aussi, l'orchestre formidable.
Oui.
Et pour vous, c'est la E aussi ?
C'est la E parce que je la trouve tellement libre, mais j'aime beaucoup, beaucoup la C et l'orchestre de la C.
Attention. Alors la version A, vous avez raison, Sarah Nemtanou, c'est en effet Janine Janssen. Bravo. Mm-hmm. L'orchestre philharmonique d'Oslo.
J'ai rien écouté.
Non.
Je vous promets, moi je prépare jamais.
Dirigé par Klaus Makela.
Oui.
C'est enregistré en 2023 pour le label Decca. Et alors attention sur les deux versions qui viennent. Attention.
Ah non,
la version C n'est pas Anne-Sophie Mutter. C'est Lysia Batiashvili.
Ah oui.
La Staatskapelle de Berlin, dirigée par Daniel Barenboim.
Et c'est la
Version C.
C'est Barenboim.
C'est Barenboim. Pour Deutsche Grammophon en 2016. Donc, en toute logique, où est Anne-Sophie Mutter ?
Elle est dans la version E. Mais je suis trop contente.
Voilà. Vous avez eu une petite intuition tout à l'heure.
Mais oui.
Ben voilà.
Dans le côté un peu conventionnel, tout ça. Je me suis fait un trip avec le mari et la femme, mais c'était pas du tout ça.
C'était la E. Voilà. Et, ben, la version Mutter. Mutter est la Staatskapelle de Dresde, dirigée par André Prévin. Enregistrement de 1995, bah, même verdict dans cette sélection qu'il y a 10 ans pour ce concerto.
Alors vous nous avez menti, 10 ans, c'est 20 ans ça.
Ah non, mais attention, version des 10 dernières années confrontée à la version qu'il avait emportée à la tribune en 2015.
D'accord.
Alors il m'arrive de tricher,
non.
Voilà, et ben on se quitte sur cette version, Mutter, sur vos commentaires et les réactions que j'attends sur le site de France Musique. Merci à vous trois cet après-midi, Sarah Nemtanou. On signale peut-être vos concerts. Ah. Alors, ce concert de Sibelius, pour vous entendre, novembre.
Le 3
novembre.
Je le joue le 3 novembre à Bucarest, dans la salle de l'Athénéum. J'ai beaucoup de chance.
Bien.
Et France Musique affrète un avion pour nous emmener vous écouter.
Voilà, c'est ça. Bien évidemment. Dans un futur plus proche, on vous entend avec l'Orchestre National de France.
Mercredi
prochain, le 25, donc, dans un programme Brahms, la 4e de Brahms, Fratresse d'Arvo Pärt et le 27e concerto de Mozart par Francesco Piemontesi. Tout cela dirigé par Eva Ollikainen. Concert qui sera donné également le 26 à Compiègne et le 27 à Arras. Merci à vous trois, Thomas Deschamps, Sarah Nemtanou, Emmanuel Giuliani. Merci à toute l'équipe technique cet après-midi. Jean Brémond à la préparation de l'émission. Dorian Vincenot, grâce à qui vous pouvez voter jusqu'à mercredi soir minuit. Valérie Lavalard à la technique. Lionel Quentin à la réalisation. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.
Musique Matin, cet été, c'est de la musique, bien sûr, pour se réveiller du bon pied, pour enchanter sa journée, mais aussi de l'actu. Nous prendrons la route des festivals, des entretiens avec des artistes, des chroniques, intelligence artificielle, opéra. C'est aussi du reportage au plus près des musiciens et d'autres surprises, tous les jours de 7h30 à 9h, thé, café, vous choisissez. Allez, on s'évade, on s'informe, laissez-vous porter.
Radio France présente le Concert de Paris.
L'Orchestre National de France, la Maîtrise et le Chœur de Radio France, dirigé par Christian Macellaro, se retrouve le 14 juillet dès 21h pour un concert au pied de la Tour Eiffel. À vivre en direct sur France Inter et France 2.
Avec Aïda Garifoulina,
Julie Fuchs,
Bruno Dessa,
Elina Garancha,
Benjamin Bernheim,
Florian Sempé,
Gauthier Capuçon,
Dom Lanena
et Bom Sori.
Avec le soutien de la Ville de Paris et d'Affaires, Association Française d'Épargne et de Retraite.
France Musique augmentée. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et restez connectés à France Musique avec nos newsletters, les programmes, les événements et toute l'actualité musicale dans votre boîte mail.
France Musique, c'est l'été.
C'est C'est le moment de votre rendez-vous